Troisième partie. Revenons à l'affaire de Château-Bedeau. Lorsque ce gamin sortit si mal en point du cabinet de toilette, Ninon eut un éclat de rire qu'on entendit de fort loin, et Madame de Château-Bedeau, qui couchait dans les environs et avait pour l'heure M. de la Vallée-Chouris sous la main, dépêcha celui-ci aux nouvelles. La mère du coupable fut donc informée promptement et résolut de se montrer très fâchée, quoique elle ne regrettât intimement qu'une chose, à savoir que son fils n'eût pas mené à bien son entreprise, car elle en eût été fière. Pendant ce temps, Thérèse racontait en bas l'événement à sa façon. Marie Coquelière allait le dire à Fleury, qui pansait les chevaux. Fleury croyait devoir se l'ouvrir au marquis. Foulque donnait un coup de pied au derrière de Fleury pour lui apprendre à parler quand c'était l'heure de partir pour la chasse. Pestait contre Chouri toujours en retard et après un coup d'œil satisfait à son équipage, s'éloignait allègrement du côté des bois de Bourgueil. Madame de Château-Bedeau se rendit chez la marquise pour lui exprimer ses regrets et son désir de punir son fils sévèrement. Elle avait si grande peur qu'on la pria de retourner à sa terre qu'elle se hâta d'indiquer elle-même le châtiment le plus pénible à l'amour propre du jeune homme, et c'était de le traiter comme un morveux, de le mettre au cabinet noir. L'idée parut plaisante et l'on choisit pour le lieu de la peine une petite pièce située tout en haut de la vieille tour du Nord, non point complètement obscure, il est vrai, mais prenant jour par des meurtrières d'aspect rébarbatif, ayant servi de prison aux Huguenots. Ce fut sa mère qui le hissa là-haut en le tirant par les poignets, car il eut envoyé au diable toute autre personne, et c'était chose grave à cette époque de lever seulement la main contre l'auteur de ses jours. Il faut dire que Madame du Château-Bedeau se repentit d'avoir choisi ce lieu élevé, car il eut beaucoup de mal à grimper jusqu'au haut de la tour par un escalier étroit en colimaçon. Elle était obligée, la malheureuse, de marcher à reculons afin de tenir le vaurien qui, s'il respectait sa mère, du moins ne faisait pas faute de lui donner à traîner un véritable cul de plomb. Tout le domestique mâle suivait pour prêter main forte. Le baron Fleury en tête, tout de frais meurtri par la semelle de son maître, mais néanmoins goguenard, mal convaincu de la grandeur du crime qu'il contribuait à châtier, et qualifiait volontiers de fameux luron le page qui avait eu le front de vouloir toucher la peau de Madame la Marquise. La porte de la geôle était munie d'un judas, où chacun se haussa pour voir le prisonnier dès que l'on eut tiré les gros verrous. Château-Bedeau, une fois là, affecta de tenir l'endroit pour plaisant et de s'y comporter comme chez lui, de siffler, de chantonner les refrains à la mode et d'esquisser quelques pas de menuet sur le sol inégal, de cracher en visant juste par le beau milieu du jour étroit. On avait, comme d'usage, disposé contre la muraille une cruche à eau et un petit siège de bois bancal et vermoulu, portant une miche de pain bi. Un grabat achevait de valoir à ce lieu la tournure classique des cachots. Quand on vit qu'il ne se passait rien d'extraordinaire, on descendit et l'on déjeuna tranquillement, malgré l'absence du marquis et de la Chouris partis pour la chasse. On touchait au dessert quand Fleury vint avertir la marquise que le jeune Château-Bedeau faisait grand vacarme dans sa tour et jetait des moellons par les meurtrières à laisser croire qu'il avait déchaussé la muraille. Ces moellons tombaient dans la cour des communs. L'un d'eux avait atteint un petit de Marie Coquelière qui braillait comme un damné dans l'enfer. Ces dames voulurent aussitôt voir le petit blessé et s'offrir en même temps le coup d'œil de cette avalanche de moellons vomis par la tour du Nord. Marie Coquelière tenait entre ses jambes le boutard barbouillé de mûres ouvrant de la largeur d'une chatière une bouche d'or d'où sortaient sans répit des beuglements de porc échaudé. Il avait le front bandé jusqu'aux yeux comme un enfant qui joue à cache-cache. Et la mère, prompte à enchérir sur l'humble vérité, affirmait avoir entendu le crâne de l'enfant péter ni plus ni moins qu'une coque de noix sous le talon. Mais un spectacle si pitoyable ne put tenir contre l'attrait de celui de la cour, où les gens du château, abrités de leur mieux, étaient réunis et regardaient, comme un prodige céleste, la mince fente de muraille d'où s'échappaient à intervalles quasi égaux des gravats de la grosseur d'un sabot lancé par une catapulte invisible et qui, suivant une belle trajectoire, frappait les vitres des écuries où l'on entendait les chevaux hennir et ruer sans qu'il fût possible de les secourir sous un tel feu. Ninon dit à Fleury de monter chez le prisonnier et de transiger avec lui au besoin de lui ouvrir la porte. Car enfin, à tout prendre, mieux valait un châtiment incomplet que le malheur d'exposer bêtes et gens, sans compter les murailles elles-mêmes, au saccage de ce forcené. Madame de Château-Bedeau joignait ses lamentations à celles du jeune Coquelière et prévoyait avec angoisse la nécessité de remonter là-haut, par l'escalier soufflant, si son fils ne s'apaisait point. Fleury revint, un œil poché, les doigts en sang, un grand coutelas à la main. On crut qu'il avait tué le page. Mais il raconta qu'au contraire, il avait arraché à celui-ci la présente lame à l'aide de laquelle le luron dégradait les parois de son cachot. Le prisonnier réduit à ses seules mains, on pouvait espérer la paix. Marie Coquelière pansa le pauvre Fleury, et à mesure que l'on considérait les linges blancs dont s'enveloppaient les deux premières victimes de Château-Bedeau, une sorte de considération naissait dans les esprits pour celui qui, là-haut, d'une pauvre cellule solidement close, au sommet d'une tour, était capable de mettre tout le château en émoi. Et l'on profita du calme pour aller lorgner le personnage par le Judas. Mesdames de la vallée Chourie et de la vallée Malitourne, dont je ne parle pas souvent parce que leur conduite privée me déplaît, furent les premières dans l'escalier. Ninon, la gouvernante, Jacquette, Malitourne et la grosse belle maman elle-même, à son corps défendant, y allèrent. On gravissait malaisément et une à une les marches étroites, peu éclairées, et les pieds enfonçaient dans la fiente des colombes ou écrasaient comme des grains de millet les petites crottes desséchées des souris. Soudain, l'une des deux belles sœurs poussait un cri parce qu'elle avait touché un insecte mou qui rampait sur la muraille, l'autre parce qu'elle prétendait avoir senti un baiser sur le cou. Ou bien c'était mademoiselle de Quinconas qui geignait à la secrète parce que M. de Malitourne la pinçait à la faveur des sombres passages. Fût-ce le bonnet qui lui communiqua sa malchance, figurez-vous qu'après que chacun eut mis l'œil au Judas et se fut rassasié de la vue du héros, et tandis que déjà l'on commençait à redescendre, Château-Bedeau s'avise qu'il est épié. Il rougit, il entre en fureur, il cherche un moyen de jouer aux indiscrets un tour fameux et mémorable. Il ne se frappe pas le front, ne se bresse pas les tempes pour réfléchir, il n'empoigne pas la cruche à eau pour en arroser qui le nargue. D'un geste rapide, il entr'ouvre, comme disait Rabelais, sa braguette et dirige un vigoureux et long jet d'eau blonde avec adresse sur les 20 pertuis du Judas. C'était mademoiselle de Quinconas qui regardait dans le moment, et avec d'autant plus d'attention que le geste premier du jeune homme l'avait intriguée, captivée même, on peut le dire, et qu'elle s'était appliquée les deux mains en œillères de chaque côté du front, afin d'accaparer tout le spectacle pour elle. Jacquette, qui la tenait par un pli de sa robe et l'interrogeait sur ce qu'elle voyait, fut très surprise de la voir s'écarter du Judas si vivement et la figure trempée. Précisément, une seconde en deçà, la gouvernante n'avait-elle pas prié qu'on la laissât tranquille? Le prisonnier ne faisant rien, disait-elle, que tirait de sa poche son étui à chapelet. Le liquide coulait en trois grosses larmes inégales et dorées le long de la porte du cachot, et mademoiselle de Quinconas, au comble du dépit, tamponnait à l'aide de son mouchoir sa gorge abondante où des ruisselets charriaient la poudre. « Je sais, dit Jacquette, ce que vous avez pris pour l'étui à chapelet. » Malitourne se tourna encore assez haut dans l'escalier pour recueillir le propos. Il remonta quelques marches afin d'en avoir l'explication et la trouva sur la figure humide de l'infortunée gouvernante. Quatre à quatre, il redescend les marches et jette la nouvelle qui dégringole en spirale dans le colimaçon. Madame de Châteaubenaud ne put s'empêcher de pouffer, quel que fût et son essoufflement et l'outrecuidance nouvelle de l'action commise par son fils. Les deux belles sœurs ne se tenaient pas de gaieté. Malitourne croyait avoir enfin, une fois en sa vie, eu la langue heureuse. Mais quand le propos heurta Madame de Maltefonds et la marquise, le maladroit reprit conscience de son destin. Nino, qui n'était pas bégueule, fut sérieusement très choqué. Oui, il est juste de dire qu'elle souffrit plus que Madame de Matelefelon, qui n'était blessée que dans ses principes, tandis que Nino l'était dans sa pudeur maternelle. Quelle vilaine femme il faudrait être pour ne pas admettre ce sentiment. Nino fut légère et souvent coupable, vous n'avez pas fini de vous en apercevoir, par suite de son défaut d'éducation, mais le fond de sa nature était bon, et presque toujours son premier mouvement excellent. Elle entra donc dans une grande colère, et en dépit du fâcheux état où se trouvait la gouvernante, elle la gourmanda vivement pour n'avoir pas su prévenir une telle inclination de l'esprit curieux de Jacquette, et la somma de lui indiquer où sa fille avait pris aussi scandaleuse leçon de choses. Mademoiselle de Quinconas jura ses grands dieux qu'elle n'enseignait pas à l'enfant un iota qui ne fût contenu dans le manuel de Monseigneur de Trélazé, que d'autre part elle ordonnait à Jacquette de baisser les yeux en passant devant les tapisseries ou les toiles représentant des figures immodestes, et qu'enfin elle lui faisait vivement prendre une contre-allée dès qu'elle apercevait dans le parc soit un de ces messieurs, soit un homme de peine, rendu pareil par le commun besoin des épanchements naturels, plantés en échalas contre un tronc d'arbre ou immobile comme une fontaine. Madame de Matelfelon, qui connaissait le beau dévouement de la gouvernante, voulait venir à son secours et ne savait pas comment. Nino trépignait et parlait à tort et à travers, voulait à toute force que l'on répondît à la seule idée qui lui demeura dans son emportement, à savoir comment sa fille avait eu connaissance de ce que mademoiselle de Quinconas prenait pour un étui à chapelet. Tout à coup, Malitourne, inspiré, se frappa le front et dit « La statuette !» Madame de Matefelon et la gouvernante tremblèrent. Mais la colère de Ninon redoublait. Que quelqu'un pensât à la statuette, s'était donné à entendre que Ninon elle-même avait pu, par sa complaisance pour l'ouvrage d'art, contribuer à modester l'innocent de sa fille. Ne l'avait-on pas averti de ce danger dès avant la naissance de l'enfant? Plus elle était convaincue que la statuette avait fait le mal, puis elle s'acharnait à démontrer que le Cupidon n'était pas coupable. « Et le labyrinthe, disait-elle, beau jeu pour une enfant. Sa nourrice a dû l'y mener tous les jours. Enfin, chacun chargeait la bourre de marbre afin qu'on épargnât la pauvre gouvernante. Un sombre remords se dissimulait maintenant sous la colère de la marquise. Madame de Mattefelot s'en avisa, et elle se résolut, dans un but de conciliation, à frapper un grand coup. Elle portait perpétuellement sur elle, pour plus de sécurité, les pièces dérobées d'un petit coup de marteau à l'amour pubère. Elle les tira de sa poche, enveloppées soigneusement dans un papier bien ficelé, et les montra à Ninon et aux personnes présentes, entre ses deux mains creusées en noix de coco, comme un vaurien vous présente un oiseau prisonnier. « Si j'y le mal, dit-elle, il est depuis beau temps sans virulence. » On ne comprenait pas tout d'abord, alors elle conta l'expédition du labyrinthe, étala le zèle de la gouvernante. Celle-ci se mit à pleurer. L'aventure stupéfia à tel point Ninon qu'elle fit comme la gouvernante. Faut à chacun de savoir quoi dire là-dessus, on se sépara. Madame de Mattefelot et Mademoiselle de Caconas demeurèrent seules vis-à-vis des morceaux de marbre qui jouaient sur leur enveloppe le rôle d'un presse-papier. La gouvernante, entre deux sanglots, les regardait encore. Elle les toucha du doigt. « Il me sauve, » dit-elle. Madame de Mattefelot se hâta de couvrir ses salutaires mais honteux débris. Ainsi se termine à l'ordinaire bien des scènes. Remarquez, s'il vous plaît, qu'on n'a rien éclairci, rien résolu, et cependant tout semble apaisé. On s'anime, on se fâche, on réclame des explications, on vous suffoque par le moyen des histoires les plus extravagantes, quelqu'un pleure, on s'attendrit, on a oublié le point de départ de l'aventure et chacun va qu'à ses affaires. Ninon, pendant qu'elle s'achemine vers le labyrinthe, un petit paquet à la main, est possédée du désir de recevoir le baiser d'un beau jeune homme. Elle rencontre le chevalier de Tegard, et elle a avec lui un entretien assez vif, qui ne s'achève malheureusement ni au gré de l'un ni à celui de l'autre, au bout d'un quart d'heure à peine. L'esprit de Ninon avait tourné comme les girouettes des tourelles, et ne retenait plus que l'indigne traitement infligé au Cupidon de François Gillet par le zèle stupide des deux femmes. Et elle s'étonna de n'avoir pas été courroucée davantage à la nouvelle d'une aussi vilaine mutilation. Elle rentra en coup de vent, saisit les attributs de l'amour pubère entre les mains de Mademoiselle de Quinconas, où il s'attardait d'ailleurs outre mesure, et elle sortit sans mot dire, au grand désappointement de la gouvernante qui croyait que la marquise venait lui demander pardon de ses vivacités. « Les raccommodements ne vont pas si vite, » dit Madame de Mottefelon. « Car entre adversaires, on ne s'entend jamais. C'est le temps qui le remède. » Ninon s'achemina vers la statuette, dans le dessein de mesurer l'étendue de la dégradation et de voir s'il était possible de réappliquer les débris. Que voulez-vous ? Cette petite marquise était ainsi faite. Tout à l'heure, elle se reprochait comme un crime d'avoir laissé debout la statuette pernicieuse, et maintenant la voilà qui va la restaurer, la statuette. Mais c'est que Ninon était femme. Ordinairement, de sa mémoire, elle chassait l'image effrontée du petit amour. Mais tout de même, cette statue de marbre, un soir, si lointain qu'il fût, elle l'avait entourée de ses bras et baisée. Si Cornobie ne se fût pas trouvée là, peut-être eût-elle oublié cette folie et oublié la statue elle-même. Mais elle pensait quelquefois au jardinier innocent et qu'elle avait chassé. Elle descendait doucement l'allée des fontaines, son petit paquet à la main. Le vent jouait dans les arbres, les marronniers, bien taillés par en bas, secouaient leur haut panache au-dessus de sa tête, et tout au bout de l'allée, un bouquet de géranium formait un décor très gracieux au-dessus du beau vase qu'environne une bacchanale. Vous n'avez pas oublié que le socle portant ce vase était situé à droite du large escalier qui conduit au jardin du bas. Par là-dessus, un splendide pain d'Italie ouvrait tout grand son parasol noir. Au-delà, mais fort loin, comme un horizon de nuages boutonneux, on apercevait la cime de vieux platanes dont les pieds baignaient dans la Loire. Mais que tout cela était donc indifférent à Ninon. Elle ne regardait que la pointe de ses petits souliers. Elle trouvait le temps un peu lourd et avait bien de la peine à mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle se reposa un moment à l'ombre du pin parasol. Que de gens, mon Dieu, se fussent estimés heureux de jouir seulement de la belle vue qu'on avait là. C'était là, il faut que je vous en parle, que M. le Cavenier de Fontainebleau avait ménagé sous les pins une terrasse longue d'une demi-lieue, cornette à main droite et une balustrade dominant ses jardins en pelouse et en bassin auxquels 8 grands jets d'eau avaient valu le nom de fontaine. Le large ruban du fleuve se déroulait dans le lointain et l'on découvrait, par les jours clairs, les toits miroitants de Saumur. Mais Ninon venait d'être piquée par un désir qui ne lui laissait à peu près rien voir des beautés du ciel et de la terre. Elle s'enfonça sous la charmille, et pendant qu'elle marchait, elle enviait le sort des femmes qui sont pressées dans leur lit par le bras d'un homme. Monsieur le meunier de Fontainebleau ne se gênait pas autrefois pour raconter des aventures romaines, auxquelles elle attachait alors peu de prix. Ces aventures se représentaient à elle en vives couleurs, comme les livres d'enfance que l'on vient à feuilleter par hasard à 30 ans. Et elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter que quelqu'une d'elles lui arrivât. Elle en rougit parce que les discours de Madame de Batefelon l'entretenaient dans la crainte des passions et parce que sa vie morale était ordinaire et modeste. Mais rien ne tenait contre l'appétit déterminé qu'elle avait de se sentir baiser la bouche par quelqu'un qui appliquerait son corps tout entier contre le sien. Ce fut dans de telles dispositions qu'elle s'engagea dans le labyrinthe. Comme celui-ci était resté exactement dans le même état que jadis, elle ne remarqua pas les soins secrets qui lui étaient rendus. Mais elle fut surprise, lorsqu'elle atteignit le bassin, de trouver là le chevalier de Teugard. Ah, n'allez pas m'accuser de placer juste en ce lieu le chevalier de Teugard, au moment même où la marquise y vient, avec l'ardente envie de toucher un beau jeune homme, et m'objecter que c'est là d'un procédé trop facile. J'ai pris la précaution de vous avertir depuis longtemps que le chevalier affectionnait les étangs, les rivières, les fontaines, et qu'il avait coutume d'aller à peu près tous les jours, un petit livre à la main, dans les régions du parc Ornedo. L'ancienne nourrice, Marie Coquelière, qui croyait aux fées et à toutes les choses merveilleuses, le révérait à cause de ses goûts aquatiques, qui s'allient volontiers à la poésie et aux mystères nocturnes. C'est elle qui l'avait engagé à venir là. Et voici comment. Mademoiselle de Quinconas, après sa fameuse expédition au bassin de l'amour, n'avait pu tenir complètement sa langue, malgré la prière de Cornebille. Et, sans trahir toutefois la personnalité de cet homme, soi-disant sorcier, elle avait dit un matin à la femme de chambre qu'elle était parvenue par hasard en se promenant jusqu'à un bel endroit où l'on n'allait jamais et qui malgré cela demeurait aussi propre que s'il eût été entretenu par les anges. Madame Coquelière, ayant su cela, l'avait redit en confidence au chevalier, qui se souvenait fort bien qu'autrefois sa grand-tante de Matefelon l'éloignait du bassin, ainsi que Château-Bedeau, sous le prétexte que la marquise s'y baignait. Il était revenu se convaincre de la circonstance extraordinaire, et il n'avait point fait de difficulté à croire à quelque miracle dû à l'essence divine de Ninon. Depuis lors, il y accomplissait de fréquents pèlerinages. Il était donc étendu là, tout de son long, sur le sable tiède, et tenant à la main un petit livre. Il lisait, et puis se cachait la figure entre les feuillets, comme pour méditer ou pour boire avidement les paroles poétiques qui, sans doute, charmaient son cœur. Ninon le considéra un moment et le vit baiser pieusement, à la margelle du bassin, la pierre où elle s'était maintes fois assise en barbotant dans l'eau du bout de son pied nu. Comme elle n'ignorait pas qu'elle fût aimée du chevalier, elle y prit plaisir pour la première fois et appela aussitôt le jeune homme par son nom. Il sursauta et devint plus blanc que le marbre de Cupidon. Ninon lui dit ce qu'elle venait faire là et lui conta, non sans se moquer, la croisade de sa grand-tante et de mademoiselle de Quinconas. Elle désignait du doigt l'ouvrage de François Gillet, privé de sa fleur. Elle tira celle-ci hors de la feuille de papier et la montra à Dieutegar. Mais le chevalier s'attrista quand il vit cela entre les mains de celle qu'il aimait. Pour lui, depuis qu'il était là, il n'avait seulement pas remarqué que la statuette fût émasculée, quoiqu'il la regardât beaucoup, parce qu'il savait qu'elle avait été jadis chère à Ninon. Celle-ci lui demanda pourquoi il faisait la grimace. Il eût été en peine de le dire, mais il se sentait blessé dans la région de son grand amour. Ninon ne comprit pas cette tendre nuance de la passion d'une âme pure. Elle le fit souffrir en insistant sur la possibilité de réappliquer les objets à leur place, soit par le moyen d'une colle spéciale, soit par quelque habile procédé. Il dit que ce n'était point l'affaire d'une femme de s'occuper de ces détails et offrit de s'en charger lui-même pour lui être agréable, à la condition qu'elle voulût bien lui confier le petit paquet et n'en plus parler. Elle y consentit et il le mit dans sa poche. Alors Ninon considéra le chevalier comme elle n'avait jamais fait. Elle lui trouvait une figure charmante. Il avait des yeux d'un assez joli bleu, de beaux cheveux bruns, une peau à peine hâlée et à peine ombrée d'un duvet naissant, par-dessus tout la plus jolie bouche que l'on puisse souhaiter d'un homme. Par cette dernière particularité, toutefois, il lui avait plu. Elle avait reposé les yeux sur ses lèvres quand il faisait la lecture à haute voix, et elle sentait qu'elle mourrait d'envie de recevoir un baiser sur la bouche. À vrai dire, cela ne lui était arrivé qu'une seule fois, à 15 ans, de la part d'un officier qui hébergea une nuit M. le meunier de Fontevraud. Ce militaire, la croisant au moment de son départ, l'avait prise à plein bras entre deux portes et laissée ahurie sans aucune autre émotion. Quant à Foulque, il était hélas bien trop rusto. Elle ne savait comment faire pour obtenir que le chevalier la baisât ainsi. S'il ne l'eût pas tant aimé, il eût bien vu ce désir dans ses yeux. Elle lui demanda ce qu'il lisait. Il dit que c'était peu de chose et glissa le livre sous son habit. Elle voulut le lui prendre, il l'en empêcha, elle riait, cela tournait au jeu. Ils connurent bientôt l'un après l'autre autour du bassin, elle heureuse de voir briller les dents du jeune homme, lui troublé, éperdu, de mériter son attention. Il trébuchait, ne savait plus courir. Quand il sentit la main de Ninon contre lui et le souffle chéri lui effleurait le visage, il porta la main à son cœur qui battait trop fort et la marquise dut le soutenir dans ses bras pour qu'il ne tombât pas. Elle s'assit à l'endroit que tout à l'heure il baisait par amour d'elle et elle le garda sur ses genoux à demi pâmé en lui mouillant les tempes avec un peu d'eau qu'elle puisait dans le creux de sa main. Lorsqu'il rouvrit les yeux sur le sein qu'il adorait, il eut dans le regard tant de confusion, de bonheur et d'amour, que Ninon même en fut intimidée, et, si près de lui, si autorisée à le baiser qu'elle fut par son attitude, elle se retint parce qu'elle sentait un peu trop grand désaccord entre l'appétit qu'elle avait de ses lèvres et le beau sentiment du chevalier. Du moins, elle sentit cela l'espace d'un instant, sans que cela même lui laissât de souvenir, mais assez pour contenir un geste, enfin, par ce moyen qui empêche souvent les femmes de commettre des fautes contre le tact, sans qu'on puisse lui en savoir gré. Aussi, presque aussitôt après ce gracieux hommage rendu par les sens à l'amour, Ninon redevint ordinaire et dit au chevalier qu'il avait attrapé chaud en courant. Il répondait « Mais non, non, madame, si, si, disait-elle. » Et elle lui plongeait un doigt dans le cou. Il était de nouveau saisi par la gourmandise et elle sentait qu'elle n'y résisterait pas longtemps, mais elle espérait que Dieu te garde la devancerait. Le chevalier semblait savourer quelque chose en lui-même et le mouvement et la parole lui étaient retirés. Elle eut de l'impatience. Elle le secoua par les deux épaules et elle attendit comme lorsqu'on sollicite une boîte à musique. Le cœur du chevalier se gonflait et aspirait la vie de tous ses membres. Les expressions de son amour s'amoncelaient aussi sous son front, mais rien que là. Alors, disons, le laissa, baisa goulûment, comme si elle eût voulu manger. Elle lui entrouvrit ses belles dents et le happa, agitant sa chevelure à la façon d'une houppe qui répandait une poudre blanche sur les épaules de Dieutegard. Elle avait chaviré sur lui en désordre. Un de ses seins avait jailli hors du corsage ouvert très bas, et sa fleur, sensible et menue, pareille à une rosetée cueillie depuis le matin, semblait attendre la goutte d'eau qui ramène la fraîcheur première. Ninon le vit bien et ne le cacha pas. Mais le chevalier, lui, ne le vit point, tant il était descendu profondément dans l'ivresse. Il fermait les yeux et semblait cueillir au-dedans de lui un étrange ravissement, comme les personnes qui viennent de mourir. Ninon le froissait tout entier de ses caresses, molestait son visage de vierge à deux mains, lui crevait contre les dents sa gorge gonflée. Mais elle se rajusta tout à coup, en faisant une vilaine grosse moue de petite fille, puis elle lança un éclat de rire et dit sèchement « Venez-vous !» Elle prit les devants dans la tortueuse allée du labyrinthe et il la suivit en silence. Tout à coup, alors qu'ils allaient sortir, Dieutegard lui sauta au cou et l'embrassa avec l'audace stupéfiante des jeunes gens timides et très émus, et il essayait de la palper comme patte de pain dans la huche. Elle l'écarta, de même que si elle ne l'avait connu de sa vie, et parut hautement offensée. Alors il demanda pardon, et fut tellement malheureux qu'il vaut autant n'en pas parler. Bon, voilà Château-Bedeau qui recommence de plus belle. Le prisonnier sanglant, Ninon dans la tour et dans la cellule. L'opinion, nouveaux ailes intempestives de Madame de Mattefelon. La chapelle, les cloches, arrivée du marquis, le marquis monte à la tour. Horrible événement accompli dans la pharmacie. Ninon était encore toute chaude de cette aventure quand elle s'entendit héler de fort loin et elle vit des gens qui descendaient l'allée des fontaines en courant. Elle apprit d'eux que Château-Bedeau avait recommencé de s'agiter furieusement dans la tour. Vers les 5 heures, après un grand calme, il avait repris le charivari de la matinée. Fleury, toujours dévoué, était remonté là-haut et avait vu par le Judas que le prisonnier maniait un autre couteau de petite dimension cette fois, mais qui dardait une lame acérée comme une langue de vipère, et à l'aide de cet outil, il s'était taillé dans la figure une longue balafre qui débutait à 1 pouce de l'oreille droite, dévalait jusque sous le menton et laissait couler le sang sur les dentelles du jabot. Fleury avait tenté d'ouvrir, mais Château-Bedeau, on ne savait comment, s'était barricadé à l'intérieur et annonçait à haute voix son intention de se couper les 4 veines. Tout le château était juché dans la tour et se tassait contre la porte inébranlable, et madame du château Bedeau, remontée une fois encore, emplissait l'escalier de ses cris et n'attendait plus des personnes assez hardies pour risquer un œil au Judas que la funèbre nouvelle. Or, à peine, désormais, osait-on regarder, parce que, chaque fois qu'il ne soupçonnait les pieds, Château-Bedeau se faisait une entaille. Thérèse, témoin de cette boucherie, gisait sur les marches, et plusieurs femmes qu'il avait vues tomber et ne valaient pas mieux qu'elle. Ninon monta le plus vite qu'elle put, enjamba tous ses corps, prit le temps de souffler et prononça d'une manière très intelligible « Monsieur de Château-Bedeau, reconnaissez-vous ma voix ?» Château-Bedeau répondit de l'intérieur « Oui, madame. »« Eh bien, monsieur, reprit-elle, je jure par ma foi de vous passer vos caprices, pour peu que vous consentiez à m'ouvrir cette porte. » Château-Bedeau, qui ne faisait rien, même en se taillant dans la figure que par vanité, fut flatté et il ouvrit donc. Ainsi qu'il arrive pour beaucoup de paroles historiques, il est bien malaisé de savoir si Ninon, en se liant par ce serment, y attacha le sens que personne n'hésita à entendre. Que dit-elle en somme? La première parole qui vient à l'esprit d'une maman réduite à composer avec un enfant rebelle. Je me refuse à croire de sa part à des résolutions tragiques. C'était une si pauvre petite tête que celle de Ninon. Ajoutez qu'elle devait avoir peine à contenir les émotions diverses accumulées depuis le matin. Toujours est-il que, peu après, on vit Ninon passer le bras par la porte entrebâillée et sa main s'agita en manière de balai, signifiant « Oust, que l'on vous voit tout promptement déguerpir et tout ira comme il faut !» On releva les malades, on les porta à bras, l'escalier dégorgea son monde et le silence fut rétabli dans la tour. On eût dit qu'il n'y avait plus là-haut que les pigeons, dont les petites pattes onglées grattaient les ardoises et dont l'arrière-gorge imitait les paysans grognons, risquant le nez dehors après l'orage. Cependant, je gage que l'on va s'imaginer, avec tous les gens du château, que la plus folle orgie s'accomplit au haut de cette tour. Château-Bedeau, incarcéré pour avoir tenté de surprendre la marquise au lit dans la matinée, reçoit dans ses bras la même marquise, rendue corps et biens, avant le coucher du soleil. Eh bien cela, mais non, non, mais non. Château-Bedeau était si bien accommodé la figure qu'il ressemblait à un Huron plutôt qu'à un chrétien, et à quelques frais, vos frais écorchés, plutôt que même qu'à aucun homme sauvage. Ninon ne l'eût pas plutôt vu s'approcher d'elle qu'elle s'affaissait sur le grabat sous apparence de vie, et celui qui la devait mettre à mal lui tapait tout bonnement le creux de la main, un quart d'heure durant, comme une garde malade, une petite maman, un apothicaire. Quand Ninon recouvra ses sens, le jour était bien bas, de sorte qu'elle n'eut pas à subir de nouveau l'affreux spectacle du jeune homme tatoué. Elle se hâta seulement d'entraîner Château-Bedeau par le plus court à la pharmacie, et là le soigna à son tour, le pansa de ses mains, et l'embobina quasi tout entier de linge blanc. Il avait l'aspect d'un de ces paquets rebondis dont on charge un baudet le jour de lessive pour le conduire à la rivière. Eh bien, cette fois qu'il eut cru, ce fut sous un tel accoutrement que Château-Bedeau consomma son forfait. Mais, avant de vous rendre témoin d'une félonie si dégoûtante, souffrez que je vous informe de ce qui se passe pendant ce temps-là en bas, chez nos gens. Tout le monde avait été soulagé lorsque Ninon avait agité son joli bras par la porte entrebâillée de la cellule. Elle arrachait son page à la mort. À quel prix, c'était son affaire. Et chacun, d'ailleurs, retournait à ses occupations, et le reste des événements se fût accompli sans dommage et sans bruit, très probablement, si Madame de Matefelon, de qui les intentions étaient pourtant toujours excellentes, n'y eût mis la main. Madame de Matefelon arrêta son monde au bas de la tour et le conduisit à la chapelle, afin d'attirer par ses prières la bénédiction de Dieu sur Madame la Marquise, enfermée là-haut pour le salut de tous avec un satyro libertin. Et elle chargea Fleury de faire tinter la cloche comme les jours où Monsieur l'abbé Puce venait officier au château. Elle récita le chapelet à haute voix. Les hôtes et les gens répondaient avec docilité. Le marquis Foulque arriva de la chasse avec Monsieur de la Vallée Coujoury, alors que les prières duraient encore. Il entendit la cloche et ne trouva ni Fleury, ni un garçon à qui remettre les chevaux. Il en confia donc la garde à son compagnon et monta, lui, à la chapelle afin de savoir ce qui se passait. Une grande obscurité comblait la nef, et quand l'assistance répondait toute d'une voix à Madame de Matefelon, on eût juré qu'il y avait là pour le moins 100 personnes en prière. Foulque pinça au bras la première forme agenouillée qu'il heurta et l'interrogea sans songer à contrefaire sa voix. C'était une pauvre fille de basse-cour qui reconnut parfaitement son maître, fut terrorisée et ne sut que crier alerte. « Monsieur le marquis! Oh, monsieur le marquis !» Le bruit que le marquis était là se répandit aussitôt, et Foulque avait beau demander « Mais qu'est-ce que vous avez là, tant de gens foutre ?» Personne n'osait lui avouer le sujet des présentes oraisons. Malitourne crut de son devoir de faire quelque chose. Il se leva, prit le marquis par le bras, et lui souffla « Sortons, je vous dirai !» L'assistance tremblait et répondait de travers. Madame de Matefelon s'inquiéta à son tour. Et voyant s'agiter Malitourne, elle n'hésita pas à penser que le maladroit était sur le point de commettre une sottise irrémédiable. Elle s'élance, renverse Jaquette, qui récitait elle aussi son ave, d'une petite voix pointue. Elle la relève, l'embrasse et trouve le temps de lui glisser à l'oreille. « Ma chère enfant, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas mépriser votre mère. » Quand elle atteignit le seuil de la chapelle, le marquis était informé. Il tirait son long nez et disait simplement « Bougre de bougre de bougre !» Madame de Matefelon lui cria « Soyez miséricordieux !» Tout le monde sortait de la chapelle. Chacun le vit s'acheminer vers la tour du Nord. Il était dans une vive colère en gravissant les premières marches. Le sang lui injectait le visage et ses deux globes oculaires semblaient repoussés au dehors par l'indignation. Il ne savait contre qui grommelait plus terriblement, contre sa femme ou contre ce gueusard de Châteaubedeau. Il éprouvait surtout le besoin d'étrangler quelqu'un. Il se vit aussi bien gourmé avec le premier venu. À la vérité, ses idées étaient peu nettes et s'embrouillaient à chaque marche. En outre, il fut incommodé par les ténèbres de la tour. Il se traitait d'imbécile pour n'avoir pas songé à se munir d'un flambeau. Petit à petit, il commença de s'essouffler, car il avait beaucoup couru à la chasse, et l'escalier, on le sait, était étroit, malaisé, glissant, souillé d'excréments d'animaux. Un moment vint où Foulque ne souhaitait plus rien, si vivement que de tenir un chandelier à la main. En vain essayait-il de se représenter mentalement la scène qu'il se donnait tant de mal à aller interrompre. En vain s'efforçait-il de juger l'acte qu'il se disposait à châtier. Il était inapte absolument à résoudre un problème spirituel. Et puis par-dessus tout, il appréciait la paix. Il s'arrêta pour respirer devant une petite fenêtre par où le vent soufflait, et il jugea que le ciel serait favorable ce soir à la pêche aux écrevisses. Et depuis qu'il montait l'escalier, cette idée de la pêche aux écrevisses était la première qui ne lui fut pas désobligeante. Mais si l'on voulait aller ce soir aux écrevisses, n'était-il pas urgent de commander les poêlettes? Il est douteux qu'il eût eu l'audace de redescendre dans le but de commander les poêlettes, mais une issue s'offrit à lui par où la tour communiquait avec les étages du château. C'est par là que Ninon avait pris pour gagner la pharmacie. Le marquis Foulque s'y engagea, heureux de poser les pieds l'un devant l'autre, enfin sur un sol égal. Tout à coup, il entendit pleurer et distingua une petite lueur. Nous avons vu que Ninon avait pansé soigneusement et quasiment emmailloté Château Bedeau. Elle avait employé à cet usage un linge abondant et fin qu'une sage prévoyance tenait placé dans un gros buffet à portée de la main. Mais le pendard s'était taillé la chair sur tant de faces et de revers que la toile se trouva épuisée alors qu'un bras sanguinolent gesticulait encore. Il y avait belle heure que Ninon appelait en vain ses gens. Le trajet était long de là à son appartement. Et les sonnettes, probablement, n'étaient pas inventées. Elle voulait, la pauvre marquise, terminer sur le lieu même son ouvrage. Elle ne savait comment se procurer le linge qui lui manquait. Elle eut l'ingénieuse idée d'user sans vergogne de celui-là même qu'elle portait sur elle. Elle en joignit donc à la chose informe qu'était maintenant Château Bedeau, de demeurer patiemment sur la chaise où elle l'avait mis, empoigna le flambeau et s'en alla se dissimuler derrière le gros buffet. Là, posant le pied sur une chaise, elle retroussa robe et jupon et se mit en devoir d'atteindre son fin linge de corps sans trop l'endommager, si cela était possible, c'est-à-dire en l'écourtant seulement d'une mince bande tout autour, car elle avait de l'ordre en ses affaires. Déjà le lin se déchirait entre ses deux paumes lorsqu'elle se sentit bousculée, culbutée à demi d'une façon absurément malhabile mais vigoureuse. Elle poussa un cri, se retourna et se trouva nez à nez, si on peut le dire, avec une espèce de patapouf énorme, informe et blafard, comparable aux bonshommes de neige que construisent les enfants l'hiver, et d'où sortait, par une fissure, l'éclat obstiné de deux yeux lubriques. Rien qui fût humain, en somme, car pour le bras, libre encore et dégoûtant par ses blessures, il évoquait plutôt l'idée d'une pince de homard. Ninon reconnut bien que c'était là son malade, son œuvre même, dont l'effrayant aspect la faisait presque sourire un instant auparavant, mais elle ne fut pas moins terrorisée par l'attitude insoupçonnable qu'adoptait soudain un objet sans sexe, eût-on dit, et sans nom. Cependant, peu soucieux du ridicule, le galant paquet de son horrible pince achevait de déchirer le linge de la marquise, et non par bande régulière, oh, je vous prie de le croire. Et ce fut pendant qu'il s'adonnait à ce travail que la cloche de la chapelle tinta. De tels sons, insolites à pareille heure, fort lugubres, entendus d'une pharmacie, et joints à l'attaque barbare que subissait Ninon, retirèrent à la pauvre marquise la moitié de ses forces. Et tout à coup, une crise de fou rire lui ravit le reste. L'emmailloté en profita. Ce fut une scène d'amour si burlesque que je n'y vois, quant à moi, point de péché pour la pauvre Ninon. Elle eut pourtant aussitôt après un grand chagrin, car elle se dit qu'il était dommage de succomber d'une manière aussi disgracieuse lorsque précisément on a été si bien disposé à la même faiblesse en d'autres circonstances et le jour même précisément. Et elle se mit à pleurer de si bon cœur et si abondamment que Château Bedeau eut presque regret de sa brutalité. Il retourna s'asseoir sur sa chaise, faute d'un nouveau méfait à accomplir. Or, à ce moment-là, le marquis passait dans le corridor. Il avait vu de loin la lumière. Il entra. Il reconnut d'abord sa femme, qui s'essuyait les yeux près du buffet, puis là-bas, la momie informe et sanglante. Ce spectacle ressemblait aussi peu que possible à ce que de seuls gens lui avaient fait redouter. Fulke s'en montra extrêmement satisfait, et dans sa toute première allégresse, il demanda incontinent à sa femme s'il ne lui plaisait pas de l'accompagner ce soir aux écrevisses. Ninon bégayait dans l'intervalle de ses sanglots et s'efforçait de faire entendre qu'elle pleurait, là, la crainte qu'elle avait eue de voir trépasser M. de Château-Bedeau. Manque d'un peu de linge pour achever de panser ses blessures. « Et quoi ?» dit le marquis. « Cette chose-là est M. de Château-Bedeau ?» Et si fâcheux que fussent les rapports qu'on lui avait faits touchant la conduite du page rebelle, le marquis ne put s'empêcher de rire en face de ce qui restait du garnement enroulé sur une chaise. Il tournait autour de cette chose en se demandant par où la prendre pour en tirer une parole humaine. Et la gaieté dont il avait besoin l'emporta en lui sur tout autre sentiment. Il alla lui-même appeler les gens, demander du linge, et revint pour son plaisir assister sa femme pendant qu'elle achevait le pansement. « Nous faisons nos adieux à Madame de Maftefelon. Bon voyage !»« Mais le chevalier de Tegar est bien malheureux. »« Influence incertaine possible, après tout, de la petite queue pointue d'un satyre sur la destinée du pauvre chevalier. » Ce fut une belle et mémorable entrée au seuil de la pièce où l'on était attablé ce soir-là que celle du marquis et de la marquise de Chamarante, tenant chacun par une sangle, une grosse poupée accoutrée, faisant des proportions pantagruéliques à la façon de celle qu'on improvise autour d'un doigt atteint de panarie. L'aventure tourna si heureusement en définitive que l'on oublia aussitôt qu'elle avait touché le tragique. Château-Bedeau ne se vendait pas mal sous ses bandelettes. Il riait même. Il était fier comme un paladin. Sa grosse maman embrassait ses linges et y taillait adroitement une petite ouverture afin d'y passer à dîner. Enfin, on allait se mettre à table, fort dispos. Lorsque Jacquette alla vers sa mère avec le sérieux d'un plénipotentiaire, elle lui dit « Soyez tranquille, maman. Quoi qu'il arrive, je ne vous mépriserai jamais. » Ninon n'en crut pas immédiatement ses oreilles. Puis elle se demanda si cette enfant innocente n'avait pas reçu par faveur du ciel l'intuition mal miraculeuse de l'événement arrivé dans la pharmacie. Finalement, elle prit Jacquette à part et lui demanda d'où elle tenait ces paroles. Jacquette répondit qu'elle les tenait de sa marraine de Matefelon. Ninon contint sa colère tant qu'elle put, mais elle ne le pouvait guère. Le temps du dîner, pendant qu'elle faisait seulement grise mine à Madame de Mantelon, elle combinait mille plans afin de lui être désagréable. Je vous avoue, moi, qui vous imagine pour vous ces choses, que je vois approcher avec plaisir le moment où la vieille dame va payer les pots cassés. Ses intentions, me direz-vous, sont toujours bonnes. C'est bien possible, mais je ne méprise rien tant que les intentions. Ce sont les résultats qui comptent. J'ai remarqué d'ailleurs que les gens zélés à l'excès sont presque infailliblement maladroits. La maladresse est la pire chose du monde. Je préférerais pour mon compte encourir la haine dont vous poursuivez la malignité, le mensonge ou la perfidie, plutôt que de bénéficier du pardon misérable que vous ne manquez pas d'accorder à celui qui se trompe en ses calculs, qui joue mal ou qui vous brise les bras ou la jambe juste en volant à votre secours. Ninon lança donc quelques piquantes fléchettes à Madame de Matefelon dès avant la fin du repas. La marraine de Jacquette fut digne. Elle annonça, tandis qu'on se levait de table, qu'elle avait reçu tantôt des nouvelles de Saint-Terre de Rochecotte et que sa présence était indispensable pour les vendanges. Elle demanda sa chaise pour le lendemain dans la matinée, qui était précisément le jour où passait le coche d'eau. Mais en plus, elle ajouta qu'elle emmènerait avec elle son neveu Dieutegard. Et voilà comment les événements s'imposent les uns aux autres, et comment un conteur n'est pas du tout libre de faire la pluie et le beau temps. Je tiens beaucoup, je le confesse, à ce que Madame de Mattefelon s'en aille, parce qu'à la fin elle m'ennuie, cette bonne femme. Je profite d'une occasion qui me paraît excellente pour l'éloigner. Mais pan, du même coup, elle nous emmène le petit chevalier. Vous sentez bien qu'elle ne peut pas faire autrement que de l'emmener. Mon Dieu, que ce petit jeune homme va avoir de chagrin. Ni la tante ni le neveu ne partirent cependant le lendemain, parce que, selon un phénomène de l'esprit que vous avez dû observer maintes fois, Nino se radoucit dès qu'elle se fut aperçue que ses paroles avaient porté. Elle insista aussitôt pour garder Madame de Mattefelon. Celle-ci, de son côté, était également fort en colère, et si elle eût obéi à son premier mouvement, elle eût secoué incontinent ses sandales sur le seuil de la marquise. Mais l'amour-propre en elle fut plus fort que le ressentiment, et elle préféra simuler 48 heures de plus la meilleure entente avec Ninon, afin que personne ne s'avisa qu'en somme, on la mettait à la porte. Mieux eût valu pour le chevalier s'en aller tout de suite. Il passa une affreuse nuit à pleurer, sur son lit, les mains croisées sur les genoux, vis-à-vis un petit motif sculpté composé d'un carquois croisé avec 3 fléchettes aiguës qui lui entraient dans le cœur. Il ne s'était guère préoccupé, lui, de ce qu'on avait pu dire, touchant la rencontre de la marquise et de Chabesedeau dans la tour, puisqu'il les croyait amants depuis longtemps déjà. Et il avait l'habitude de souffrir de cette idée. Mais il se souvenait de la scène du bassin, où Ninon l'avait accablé de ses caresses, puis peu après s'était moqué de lui. Et il tirait de cette double attitude une série de motifs d'espérance et une autre de se désespérer. Il faut avouer qu'il avait éprouvé un secret plaisir, quoiqu'il ne fût pas méchant à voir Château-Bedeau redescendre si mal en point de la tour. Ah! Voyez à ce propos comme l'habit nous trompe, puisque c'est dans ce pitoyable attirail que son rival l'avait emporté. Lorsque Madame sa tante lui annonça qu'elle l'emmenait avec elle et qu'il ne reviendrait plus au château, il n'éprouva pas cette douleur mortelle que l'on pouvait redouter pour lui, non. Il ne l'éprouva pas parce qu'il ne la crut pas possible qu'il fût séparé à jamais d'une personne qu'il aimait tant. Quelque chose lui disait qu'aucun pouvoir du monde ne saurait le contraindre à une si dure extrémité. Sa tante pouvait bien lui ordonner de garder sa valise, la pousser avec elle dans le coche et le clore entre les murs du parc de Rochecotte, à moins qu'il ne fût solidement maintenu dans une prison du roi, oh, il pourrait toujours s'échapper et revenir. Allons au pire. À supposer que Ninon elle-même le congédia, il aurait la consolation de demeurer à la grille, de savoir Ninon peu éloigné de lui, de l'apercevoir peut-être quelquefois à travers les barreaux, quand elle passerait en faisant craquer le sable sous ses petits pieds, ou en balançant ses 2 jambes chéries sous la soie des jupons. Oh, musique divine! Et cela lui épargna de s'abandonner complètement au désespoir. Il passa la matinée à s'imaginer que Ninon aurait de la peine à le voir partir et qu'elle insisterait encore auprès de Madame de Mattefelon pour la garder ainsi que son neveu, ou bien tout au moins qu'elle lui dirait à lui gentiment la peine qu'elle avait. Oh, certainement, il se fut contenté de cela. Mais Ninon ne s'occupa que des soins nécessaires à Château-Bedeau. Le chirurgien vint de Saumur. Toutes les femmes furent employées à découper, à rouler et à dérouler des bandages à pétrir des onguents, à effaufiler le vieux linge. Madame de Château-Bedeau commandait à tous. Telle est la vertu mystérieuse du sang répandu. Un garnement qui, hier, déshonorait le nom de sa mère, aujourd'hui, pour quatre égratignures, lui vaut d'abord l'oubli du passé, et quasiment cette auréole ou ce bonnet glorieux que tout le monde voit sur la tête de la maman des héros.